إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ميز الله الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل وكرمه بذلك، وليس من الصواب أن يسعى الإنسان إلى إتلافه ويستمر في طريق ضرره وعطبه، ويشتري وسيلة هلاكه بيده ورضاه، ويصير أسير سبب عنائه وشقائه. وهل رأيتم من يعيش هذه الحال السيئة حقيقة؟ نعم، هناك من يعيشها، ولكنه يعتقد أنه يجد الراحة، ويلقي تحت ضوء ناره ظلمة الحاجة باحثا عن اللذة وساعيا لإدراك المتعة. ولكن الإسلام بصفائه وسلامة مبادئه وموافقته للعقول المستقيمة يأبى هذا التفكير المعوج وآثاره البعيدة عن سواء المنهج. فقد جاء الإسلام لغاية حميدة وأهداف رشيدة، ومنها الحفاظ على أبدان الناس وعقولهم وأرواحهم من أسباب تلفها وألمها، حتى إنه حرم قتل النفس وما يؤدي إلى قتلها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود. وحرصا على حماية النفس البشرية من التلف عامدا أو متجاهلا، فقد توعد الشرع من قتلها بشيء بأنه يصنع بها كذلك في نار جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم في النار. رواه البخاري. وجاء ما هو أشد وعيدا، فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. متفق عليه. فاتقوا الله عباد الله في الحفاظ على سلامة نفوسكم، فإنها غالية عند الله. عباد الله، اعلموا أن التدخين والإدمان عليه وطول الزمان تحت ضوء ناره ودخانه من العدوان على النفس والسعي إلى إضرارها، فهو خطر قاتل بلي به جمهور عريض في مجتمعات المسلمين المعاصرة وفي العالم كله، وخاصة بين الشباب، مع أنه طريق محقق إلى عطب النفوس وهلاكها، وسبيل سالك إلى عنائها وشقائها، وهو من الخبائث التي لا تحلها الشريعة الإسلامية ولا ترضى بها العقول النقية. فقد قال الله تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فمن يرى أنها من الطيبات فهو خادع لنفسه وطامع لسمه وساع في حتفه. ولهذا أفتى العلماء بتحريمه لعظيم خطره وكثرة ضرره. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال، ومن لم يسكره فإنه يحصل منه نوع التفتير وتخديع وقد روى الإمام أحمد حديثا مرفوعا أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر، ولعموم قوله تعالى: ويحرم عليكم الخبائث، والدخان خبيث بلا شك لما فيه من الإخلال بالصحة وإضاعة المال المنهي عنها. عباد الله، إن من دام امتصاصه للأصابع السجائر لا يجني سوى الضرر على دينه وبدنه وماله، بل يضر كذلك على الآخرين غير المدخنين. فالتدخين ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، ولذلك كانت الفتوى بتحريمه، فمن تناوله فقد ارتكب معصية، وهي مما كرهه الله لعباده لما فيها من الإثم والتبعات. يقول تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والدخون رائحته كريهة، إذا ظهرت حذر على صاحبه دخول المساجد حتى لا يؤذي المصلين، فيفوت بذلك على المدخن فضل صلاة الجماعة، فإذا حرم على من تناول مباحا وهو الثوم والبصل ونحوهما فكيف بالدخان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، وفي رواية: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية: فلا يقربن مساجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه البخاري ومسلم. والتدخين له آثار سيئة على البدن، فهو سبب رئيسي لأمراض القلب والرئتين، وتصلب الشرايين وحصول السعال الشديد وتكون البلغم وغير ذلك. ولكم أن تعجبوا أن هذه الأمراض مدونة على علبة السجائر ليقرأها كل مدخن، فهي موعظة يومية لكل مبتلى بهذا الداء، ومع ذلك يقرأها ولكنه لا يعمل على اجتناب سببها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، والسجائر والتدخين يضر بك ويضر بالآخرين. ويكون في ذلك عبرة لمن تذكر، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. والتدخين له آثار سيئة على المال، فكم ينفق المدخن شهريا على تدخينه، وإذا لم يجد ذهب للاستدانة من غيره، بل بعضهم يحرم نفسه وأهله وأولاده شراء الطيبات ليذهب ليشتري بذلك المال الدخان القاتلة. فبالتدخين كم أحرقت من أموال لو صرفت في غيره لكان منها منافع ومصالح. ومن تأمل في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتدخين يجد الإحصائيات المذهلة والأرقام المخيفة. يعني منظمة الصحة العالمية تقول أن التدخين يقتل كل سنة 7 مليون شخص. وإذا منع الله معشر المسلمين من إعطاء الأموال للذين لا يحسنون التصرف فيها، فما يقال عن الذين يصرفون تلك الأموال في شراء التدخين؟ عباد الله، لقد بان لجميع العقلاء خطر الدخان وآثاره السيئة، وظهر كثرة المبتلين به من الشباب وغيرهم، فما الوسائل الواقية من الوقوع في هذا الداء؟ والجواب على ذلك أن وسائل الوقاية التي تحد من هذه الظاهرة تبدأ بالتربية الصحيحة في البيوت، ومتابعة الأبناء، وبيان عواقبها وآثارها السيئة على النفس والمال والصحة والعقل والدين. واستعينوا على مهمتكم الجليلة بالمرئيات والصور المعتبر المعبرة التي تنفر من هذا الداء وتظهر بوضوح خطره. وقبل هذا كونوا لهم قدوات حسنة بتجنبكم التدخين، فعلى سنة الآباء يسير الأبناء، فمن كان مدخنا كيف يستطيع أن يمنع أولاده منه وهم يشاهدونه عليه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن وسائل الوقاية من التدخين قيام الجهات التعليمية والإعلامية بدورها في هذه القضية التي تهم المجتمع كله. فالمساجد في دروسها وكلماتها وخطبها عليها كفل من هذه المسؤولية المقدسة في تحذير شباب المسلمين وسائر المجتمع من هذا المرض القتال. والمدارس والجامعات والمعاهد في مناهجها وعلى ألسنة معلميها عليها نصيب كبير من التنفير من هذه الظاهرة السيئة، ووسائل الإعلام المختلفة عبر برامجها وإعلاناتها، وعليها دور كبير للحيلولة دون وقوع الشباب في فخ التدخين الذي يتساقط فيه الملايين. فهذا من المسؤولية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. ومن وسائل الوقاية من التدخين إبعاد الشباب عن جلساء السوء، فإنهم داء قد فتاك وموصل إلى العطب والهلاك. فكم من شباب يعني كان معافى من التدخين، فلما جالس رفقاء السوء أخذوا بيده حتى أغرقوه في مستنقع الإدمان على الدخان، والجليس مقتد بجليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد. ولو وفق ولو وقف الأمر هنا لكان أهون، ولكن جلساء الشر ينقلون جليسهم من التدخين إلى المخدرات، فيكون الدخان هو الدركة التي هبط بها صاحبها إلى البلاء بالمخدرات، نسأل الله العافية والسلامة. فيا شباب المسلمين، إن الأمر جد وليس بالهزل، فاتقوا الله في أنفسكم وارحموها من هذا الداء الذي قد ظهر لكم عظم خطره وبان لكم كثرة ضرره، فابتعدوا عنه وعن أهله تفلحوا. واعلموا أن التحريم لا يعني يقصر على التدخين للسجائر فقط، بل يشمل كذلك تحريم الشيشة والشجائر، السجائر الإلكترونية، وليس تحريمه يقتصر على يعني شرب الدخان نفسه، بل يعني يشمل كذلك زراعته وصناعته وبيعه وشراؤه، وكل ذلك داخل في التحريم. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما يحرم أكله فبيعه حرام، وليس فقط أكله أو شربه. ومن قد بلي به فليسارع في التوبة والإقلاع عنه، ولا يتذرع بأنه لا يستطيع التحرر من ربقته، فما تلك إلا حجة شيطانية للبقاء على غلة شركه. فمن كان صادق العزم قوي الحزم واستعان بدعاء الله ووسائل ترك الإدمان، أعانه الله على ترك هذه البلية والخروج من هويتها المردية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah et de son châtiment, préparez-vous pour sa rencontre au jour de la résurrection, en faisant des bonnes œuvres et en vous écartant des interdictions. Serviteurs d'Allah, sachez que l'islam est une religion qui enjoint aux hommes de préserver leur raison et de préserver leur personne et leur santé et leur honneur. Et donc tout ce qui amène un tort à une personne dans sa vie, dans sa santé, et qui lui fait du tort et qui lui nuit, eh bien ça c'est quelque chose d'interdit en islam. Et l'islam interdit à une personne ce qui peut l'amener à sa propre mort ou qui peut être une cause dans sa mort. Et Allah Azza wa Jalla, il dit: wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Et il dit aussi: wala taqtulu anfusakum. Que votre main ne soit pas une cause pour votre perte, que vous périssez à cause de votre propre main. Donc ça c'est interdit pour une personne. Et également parmi les choses qui font donc Allah Azza wa Jalla nous protège contre beaucoup de choses mauvaises dans ce monde et qu'il nous interdit tout ce qui est mauvais pour nous, parmi ces choses là il y a une maladie qui est propagée malheureusement dans le monde entier et en particulier aussi chez les musulmans, c'est la cigarette. Beaucoup de musulmans ont été affligés par cette maladie-là et ils sont devenus même parfois dépendants de ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que ça crée une dépendance et en plus, ça nuit à la santé de la personne. Et on a remarqué que beaucoup de jeunes musulmans fument ou commencent à fumer, soit parce qu'ils veulent, ou ils s'imaginent qu'en fumant, ça leur donne une certaine valeur auprès de leurs amis, de leurs proches, ou bien des copains, des amis, des fréquentations. Et ils pensent que ça les fait paraître plus vieux. Et les jeunes, des fois, ils veulent ressembler à ceux qui sont plus âgés qu'eux pour se faire respecter. Donc, ils voient que le fait de fumer, ils pensent que ça, c'est un signe de respect, c'est un signe de liberté, un signe qu'il est devenu adulte. Alors qu'en réalité, yani, ça n'a rien à voir. Et donc, étant donné que tout ce qui est mauvais en islam est interdit, eh bien, il n'y a pas de doute que la cigarette, c'est quelque chose qui est mauvais. Il n'y a rien de bon dans la cigarette. Il y a des choses, des fois, dans la dunya, il y a des choses qui sont mauvaises, mais elles ne sont pas 100% mauvaises. Des fois, il y a du bien dedans quand même. Tu peux dire peut-être qu'il y a des vitamines, peut-être qu'il y a des protéines, peut-être qu'il y a quelque chose de bénéfique pour la santé, mais qu'il y a des effets secondaires ou des effets néfastes. Mais dans la cigarette, il n'y a rien de positif du tout. Il n'y a rien de bon. C'est un mal pur. Il n'y a que du mal dedans. Donc, il n'y a pas de doute que c'est interdit. Et il y a des fatwas, des ulama qui ont mentionné les preuves de l'interdiction de la cigarette. Et parmi les preuves, le fait qu'il est interdit de se tuer soi-même. Et vous savez que la cigarette, lorsqu'elle est apparue en premier dans les pays musulmans, eh bien, beaucoup de ulama, ils n'étaient pas d'accord sur son jugement et sur son verdict. Certains disaient que c'était déconseillé ou détestable. Et ils se basaient sur uniquement l'aspect de l'odeur pour dire que c'est makruh. Parce qu'ils ne connaissaient pas les effets néfastes sur la santé encore. Et il n'y avait pas encore de preuves, d'études scientifiques qui prouvaient à quel point ça pouvait détruire la santé des gens. Donc, ils disaient au début que c'est makruh, détestable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, par exemple, de rentrer dans la mosquée si on a mangé de l'ail ou de l'oignon. Alors, ils ont fait une analogie entre ça et la cigarette pour dire, ça c'est la preuve que c'est détestable. Mais une fois que les chercheurs, les médecins, les scientifiques ont fait des recherches et vérifié les effets néfastes de la cigarette, eh bien, à ce moment-là, le hukum, le jugement de la charia à ce sujet-là est devenu définitif. Il n'y a plus aucune ambiguïté et aucun doute sur le fait que la cigarette est haram. Absolument haram, sans aucun doute. Hein? Parce que c'est quelque chose qui tue. Et on va mentionner des exemples de ça, inshallah. Donc, parmi les raisons aussi, on a mentionné pourquoi c'est interdit à cause donc de l'odeur et aussi à cause du tort qu'on fait non seulement à soi-même en fumant, mais du tort qu'on fait à ceux qui sont autour de nous qui ne fument pas. Parce que les effets de la fumée secondaire est plus grave et plus néfaste même parfois que la cigarette de la personne qui fume elle-même. Parce que celle qui fume, elle fume à travers un filtre habituellement. Tandis que ceux qui respirent la fumée secondaire, eux, ils n'ont pas de filtre. Donc, ils respirent directement là toutes les effets, les choses toxiques de la fumée de cigarette. Donc, si quelqu'un, il est fumeur, il fume dans sa maison, il fait sentir à ses enfants et à sa femme et à tous les gens qui sont chez lui ces choses-là qui sont toxiques. S'il fume dans sa voiture et il est avec ses enfants, il intoxique ses enfants aussi et il les rend malades. Donc tout ça fait partie des raisons qui montrent pourquoi la cigarette est interdite. Sans parler des raisons économiques, que c'est un gaspillage d'argent. C'est équivalent à prendre ton argent puis à le fumer. Tu le brûles. Tu brûles ton argent carrément. Et on sait à quel point les cigarettes sont chères pour les paquets. Je ne sais pas combien c'est maintenant, mais c'est pour dire, yani, subhanallah, que ça coûte extrêmement cher. Et c'est pas seulement la cigarette c'est pas seulement de fumer la cigarette qui est interdit, mais de le vendre, de le cultiver, de le fabriquer, de le distribuer. Tout ça rentre dans l'interdiction. Et si on s'entraide tous ensemble pour arrêter cette maladie et ce fléau, eh bien à ce moment-là, on va arriver à l'enrayer, inshallah. Parce que Allah Azza wa Jalla dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de s'entraider les uns les autres dans la piété et dans le bien. Et il dit wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Donc si quelque chose est haram, un péché ou une transgression, on n'a pas le droit de s'entraider entre nous. Et si tu vends, si tu produis, si tu cultives le tabac, eh bien ça c'est un moyen pour s'entraider dans le péché. Et si tu t'entraînes dans le péché, c'est plus grave que de faire le péché lui-même. Donc toi tu vas dire, mais moi je ne fume pas. Mais tu le vends dans ton magasin, tu le distribues, tu as un champ, tu fais pousser les feuilles de tabac dedans. Puis tu dis, moi je ne fume pas, moi je sais que ce n'est pas bon. Mais tu es une cause dans le fait que la santé de millions d'êtres humains est détruite à cause de toi. Donc, est-ce que tu ne penses pas que tu as une part de responsabilité? Donc, juste pour vous donner quelques notions par rapport à l'aspect dangereux de la cigarette. Je vais vous donner quelques données seulement pour vous faire réfléchir, pour vous faire prendre conscience. Donc, le tabac, on sait qu'il est dangereux parce qu'il expose le corps à qu'est-ce qu'on appelle la nicotine. La nicotine, c'est une drogue qui crée une forte dépendance. Et il y a des milliers de substances chimiques produites par la combustion elle-même. Donc, s'il y a dans une pièce, il y a un feu, et que vous commencez à respirer la fumée et à l'inhaler, qu'est-ce que ça va faire dans vos poumons? Hein? Ça va faire beaucoup de dégâts, ça va faire beaucoup de problèmes. Vous êtes en train de respirer la fumée du feu, hein, à chaque fois que vous fumez une cigarette. Et il y a plein de produits toxiques qui se forment lors de la combustion. Vous êtes en train d'absorber ça dans vos poumons et dans votre corps. Donc, parmi les exemples qui ont été mentionnés, c'est que le tabac est classé parmi les cancérigènes pour l'être humain. Et l'agence spécialisée de l'OMS sur le cancer a mentionné que c'est un des plus importants cancérigènes. Le tabac est dangereux. Malgré tout, il est vendu légalement dans la plupart des pays. Et il est réglementé parfois et taxé énormément. Donc parfois, certains pays, ils profitent des taxes de la vente de ce produit-là. C'est pourquoi ils mettent des écritures ou des dessins sur les paquets pour dire aux gens, ça c'est pas bon pour la santé, ça cause le cancer, mais ils continuent à le vendre, ils continuent à le taxer. On dit que l'OMS dit que plus de 7 millions de personnes meurent chaque année tuées par la cigarette. Et plus de 1,6 million de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire sont affectés aussi par ça. Donc ça crée des cancers du poumon, mais aussi des cancers de la bouche, de la gorge, du larynx, de l'œsophage, du pancréas, de la vessie, du rein, du col de l'utérus et d'autres organes. Et on dit que 9 décès sur 10 est causé par le cancer du poumon. Ça cause aussi les maladies qui favorisent à abîmer les artères, favoriser l'hypertension, créer des caillots sanguins, des infarctus et des AVC. Et donc c'est une cause majeure dans les maladies cardiovasculaires. Et c'est aussi un des responsables de ce qui endommage les poumons et qui crée des bronchopneumaties obstructives et des emphysèmes, des problèmes, des maladies des poumons. Non seulement que également ça crée des dépendances, comme on a mentionné, et la fumée secondaire qui fait du tort. Et la femme qui fume, si elle fume pendant sa grossesse, non seulement ça l'affecte elle, mais ça affecte aussi son enfant. Et donc, quand on parle des revenus qui viennent des cigarettes, c'est des milliards. On parle de centaines de milliards de dollars par année. Et des milliards de dollars de profit. D'accord? Et donc, si, par exemple, les pays, dans les pays où on permet la vente des cigarettes, on permet ces choses-là, puis en plus on met des taxes là-dessus, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on achète quelque chose qui détruit la santé de la société et de la population, et ça fait augmenter les frais et les charges du système de santé, hein, et ça fait augmenter les maladies, et donc on paye pour tuer les gens, en fait. Et donc ça, c'est très dangereux, hein, et c'est très grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut prendre des moyens concrets pour stopper, hein, cette industrie qui est en train de détruire la santé des gens, il faut prendre des moyens sérieux. Hein? Interdire la production, interdire la vente, interdire que les taxes qui sont mises sur le tabac soient utilisées pour autre chose que pour financer la guerre contre la cigarette. C'est-à-dire que l'argent des taxes doit être utilisé pour interdire les cigarettes et stopper la cigarette et aider les familles qui ont été affectées par les maladies causées par ces cigarettes-là soient justement dédommagées et qu'on puisse aider les jeunes à éviter qu'ils tombent dans ce piège-là de la cigarette. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire, c'est clair. Mais au niveau individuel et au niveau personnel, il y a des choses à faire en tant que musulman. Et c'est bien entendu de croire que c'est haram. Ça, c'est une des meilleures façons de pouvoir stopper. Parce que si tu crois que c'est halal, tu ne vas pas être incité à vouloir arrêter de fumer. Mais lorsque tu es convaincu que c'est haram, donc tu sais que tu es en train de faire un péché. Donc tu dois te repentir, tu dois stopper. Et quand tu penses au tort que tu fais à ta propre santé et au tort que tu fais à la santé des autres, en tant que musulman, tu ne peux pas accepter ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La darara wa la dirar ». Tu n'as pas le droit de faire du tort à ta propre personne et tu n'as pas le droit de faire du tort aux autres. Hein? Et également, justement, de prendre les moyens. S'il y a des médicaments qui existent ou des choses qui existent pour aider une personne à arrêter de fumer, elle doit utiliser tous les moyens halal pour y arriver. Et s'éloigner des mauvaises fréquentations. Si vous avez des copains ou des amis qui fument et que quand vous êtes avec eux, ils vous encouragent à fumer, écartez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous de ces personnes-là. Et même des ulama, quand on leur a posé la question, une femme, elle a dit, il y a quelqu'un qui est venu me demander en mariage, mais il fume. Est-ce que je devrais l'accepter? Et le cheikh, il a dit, ne le marie pas. S'il fume, il n'est pas bon pour toi ni pour ta famille. Il va faire du tort, il va détruire ta santé et la santé de tes enfants. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, c'est comme... Fumer, c'est la moindre des choses. Les gens, ils n'ont aucune conscience de ça. Et ici, dans des pays comme le Canada, un pays qui n'est pas musulman, un pays de kufr, de shirk et d'égarement, et ils mettent plein de restrictions pour nous empêcher de fumer. Même, par exemple, devant les magasins, ils disent « Tu dois être à 9 mètres de la porte. Hein? » Et plein de règles pour faire en sorte... Hein, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas acheter. Il y en a plein de règles comme ça. Ça, c'est pour essayer de faire en sorte que les gens soient dissuadés, soi-disant, de fumer. Même, ils n'ont pas le droit d'afficher les cigarettes dans les magasins. Maintenant, ils cachent ça. Mais tu vas dans des pays musulmans, malheureusement, et même les enseignements de l'islam qui sont clairs sur ce sujet-là, c'est comme s'ils ne tiennent même pas compte. Et tu vas avoir parfois des jeunes, des petits-enfants, 12 ans, 13 ans, qui fument dans la rue. Et il n'y a pas un adulte qui passe qui va lui dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fumes ?» Ça, c'est haram. Hein? Et les hommes, c'est le matin, ils vont... Qu'est-ce qu'ils font? Première chose, aller au café, prendre la cigarette. Et c'est ça leur déjeuner. Hein? A'oudhou billah. La cigarette, soi-disant, ils disent c'est pour le stress. On fume parce qu'on est stressé. Puis après, ils prennent un café très fort, rempli de caféine, qui le stresse au maximum. Il crée le stress et il veut enlever le stress avec quelque chose qui le tue. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. En tout cas, que Allah Azza wa Jalla nous guérisse de cette maladie-là et guérisse la umma et que les jeunes, que Allah les guide et les préserve de cette cigarette-là, qu'ils ne rentrent pas dans ça, que Allah les préserve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.